Bien, bravo, merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le net, que Dieu vous bénisse aussi. Ce matin, ça va être un peu spécial. On va commencer par une lecture dans le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les hommes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Alors, le roi de Cyrus n'était pas un juif, c'était le roi de Perse. Et ça montre que Dieu peut inspirer une personne qui n'est pas de son peuple pour faire de grandes choses. Je ne vais pas vous faire la lecture de tout ce qui s'est passé depuis que ce décret a été émis. Mais ça a été une joie immense pour le peuple de Dieu qui était resté, qui était en exil à Babylone depuis longtemps. Au chapitre 2, verset 3, il est écrit qu'ils sont partis avec Zorobabel, Josué, Néhémie et toute une liste de noms et données. Si je vous lis ça, on est encore là demain matin, mais vous le lirez si vous voulez. Mais Zorobabel est donné en premier. Et ils arrivèrent dans leur ville à Jérusalem. On trouve ça au chapitre 3. Tous louent Dieu quand ils se mirent à poser les fondements du temple. Certains pleuraient parce que c'était des vieux qui avaient vu le temple avant qu'il ne soit détruit. Et ils pleuraient parce que voilà, c'était pour eux une grande émotion de voir que c'était reconstruit. D'autres éclataient de joie. De sorte, la Bible dit qu'on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie des bruits des pleurs parmi le peuple. Mais, comme rien n'est jamais simple, il y a une épreuve qui a surgi. Et les gens du pays, parce qu'il y a des gens dans le pays, se mirent à décourager le peuple de Jacob, le peuple d'Israël. Et ils ont intimider le peuple pour empêcher de construire le temple. Et Cyrus, au bout de quelque temps, il est mort. Et Darius devint roi des Perses. Pas tout de suite, il y en a eu d'autres entre la mort de Cyrus et le règne de Darius. Il y a eu d'autres rois, il y a eu Assuérus et les ennemis d'Israël ont écrit une méchante lettre accusant les Juifs des pires maux. Vous trouverez ça dans le livre d'Esdras, chapitre 4, verset 6. Vous verrez de quoi ils les accusent. Et il y a eu le roi, alors là, la prononciation c'est difficile, Axta-Xerxès. Heureusement qu'il n'y a plus grand monde qui s'appelle comme ça, parce que alors, comment s'appelle ton bébé? C'est joli. Et il a reçu une lettre contre les Juifs aussi. Vous trouvez cette lettre dans Esdras 4, 11 à 16. Et cette méchante lettre était prise au sérieux. Et le roi de Perse ordonna l'arrêt des travaux. Voilà. Les travaux ont été stoppés jusqu'à la deuxième année du roi Darius, roi de Perse. Donc Cyrus avait donné l'ordre. Et puis ensuite, les travaux ont été arrêtés, et la deuxième année du règne du roi Darius, les travaux ont repris. Et la Bible nous dit qu'il y a eu deux prophètes qui se sont levés, Agé et Zacharie, Et il y a eu Zorobabel et Josué qui se sont levés et qui ont commencé à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et le prophète les assistait dans leur ouvrage formidable. Darius a pris la chose et fit des recherches dans les archives. Et il trouva le décret du roi Cyrus, parce que tout était gardé dans des, comment on appelle ça, dans des archives. C'est ce que font, c'est ce que je fais aussi, hein, j'ai des archives et qui racontent tout. Et Darius a donné l'ordre de laisser les Juifs reconstruire le temple, vous trouvez ça donc dans le chapitre 5 et le verset 7. Esdras publie un jeûne d'humiliation devant Dieu. Et il dit au roi, la main de notre Dieu est pour le bien de tous ceux qui cherchent Dieu, mais sa force et sa colère sont contre tous ceux qui abandonnent Dieu. On trouve ça au chapitre 8, verset 22. Ceci pour expliquer que, oui, c'est vrai, il y a eu des guerres, il y a eu toutes sortes de choses. L'ennemi, quand il raconte des horreurs, il raconte pas que des mensonges. Puis Israël n'avait pas été très fidèle non plus. C'est pourquoi ils ont été déportés à Babylone. Enfin, ce que je veux vous dire, ce que je viens de vous dire là, c'est un résumé des 8 premiers chapitres du livre d'Esdras qu'on trouve dans la Bible. Et il y a le livre d'Esdras de la Bible éthiopienne qui donne beaucoup plus d'explications. Alors je vous ai déjà parlé de cette Bible, je vous l'ai mise en photo sur Révélation Bible, vous pouvez vous la procurer, je vous recommande de vous la procurer. C'est la seule Bible au monde qui reconnaît, par exemple, le livre d'Enoch. Je dis ça pour nos frères et sœurs congolais, puisque ils aiment beaucoup lire le livre d'Enoch. Mais je dis ça aussi à tous les autres, ce livre est extraordinaire. Et je vais vous lire un passage qui va vous bénir, alors que nous sommes à la veille de la reconstruction du temple. On le sait. Hein. Nous avons, avec Michou, on a visité Israël et on a vu que les objets sont déjà préparés, et voilà. Donc, le livre d'Esdras dans la version éthiopienne commence pas au chapitre 1, mais au chapitre 2. C'est-à-dire que dans nos Bibles, c'est le chapitre 1, la première année du roi Cyrus, etc. Là, ça se trouve au chapitre 2. Je ne vous lis pas le chapitre 1, je vous lis le chapitre 2. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, et il fit une proclamation dans tout le royaume, et il l'a mis également par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, le Seigneur d'Israël, le Seigneur très haut, qui m'a établi roi du monde. C'était quelqu'un qui avait une autorité mondiale, en quelque sorte, du monde connu d'alors. Et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Judée. Si donc quelqu'un d'entre vous et de son peuple, que son Seigneur soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judée, et bâtisse la maison de l'Éternel d'Israël, il est le Seigneur qui habite à Jérusalem, et que chacun, où qu'il habite, soit aidé par les hommes de son Dieu avec de l'or, de l'argent, avec des offrandes, des chevaux, du bétail, ou les autres choses ajoutées, comme offrande votive pour le temple de l'Éternel qui est à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande votive? Eh bien, c'est une offrande qui a trait à un vœu qu'on peut faire. Alors, ils se levèrent, les chefs de famille des tribus de Juda, de Benjamin, les prêtres et les lévites, et tous ceux dont l'Éternel avait réveillé l'esprit. Pour monter, construire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et leurs voisins les aidaient en tout, en or, en argent, en chevaux, en bétail, et on a un très grand nombre d'offrandes votives de la part de beaucoup de gens dont le cœur était ému. Le roi Cyrus sortit aussi les vases sacrés de l'Éternel que Nabuchodonosor, voilà encore un nom à coucher dehors avec un billet de logement dans la poche, Nabuchodonosor avait emporté de Jérusalem et conservé dans son temple d'idole. Lorsque Cyrus, roi des Périens, les fit sortir, il les donna à Mithridate, son trésorier, et par lui ils furent donnés à, encore un autre nom, Sheshbazar, gouverneur de Judée. Leur nombre était de 1000 coupes d'or, 1000 coupes d'argent, 29 brasiers d'argent, 30 coupes d'or, 2410 coupes d'argent et 1000 autres ustensiles. Tous les ustensiles furent remis, or et argent, 5479, et ils furent ramenés par Sheshbazar avec les exilés de retour de Babylone à Jérusalem. Alors, quand on dit Bible apocryphe, ça ne veut pas dire Bible fausse ou Bible douteuse. Le mot apocryphe, ça signifie tenue cachée. Ce livre que les Éthiopiens ont tenu à mettre dans leur Bible, ils ont tenu à ne pas le cacher, alors que chez nous, on l'a tenu caché. Pourquoi? Vous allez comprendre, ça dérange beaucoup les religieux. Mais nous, comme on n'est pas des gens religieux, voilà, ça nous va. Mais au temps d'Artaxerxès, roi de Perse, Bilam, Mithridate, Tabel, Rehum, Beth, Nus, j'imagine le scribe et le reste de leurs associés vivant à Samarie et ailleurs, lui écrivirent la lettre suivante contre ceux qui vivaient en Judée et à Jérusalem. Ô roi Axerxès, notre Seigneur, les serviteurs Rehum, les greffiers et Shimshai, le scribe et les autres juges, de leurs conseils en Coé, les Syrie et en Phénicie, maintenant, sachez que notre roi, notre Seigneur, et que les Juifs qui sont venus de chez vous, vers vous, sont allés à Jérusalem et qu'ils bâtissent cette ville rebelle et méchante, réparent ses places publiques et ses murs et posent les fondations d'un temple. Or, si cette ville est bâtie et si les murailles sont achevées, non seulement ils refuseront de payer le tribut, mais ils résisteront même au roi. Et puisque la construction du temple est en cours, nous pensons qu'il vaut mieux ne pas négliger cette question, mais parler à notre Seigneur le Roi, afin que, si cela te semble bon, on fasse des recherches dans les archives de tes pères. Tu trouveras dans les chroniques ce qui était écrit à leur sujet. Tu apprendras que cette ville était rebelle et qu'elle troublait les rois et les autres villes et que les Juifs étaient des rebelles et qu'ils y installaient depuis longtemps des blocus. C'est pourquoi cette ville a été dévastée. C'est pourquoi nous te faisons savoir maintenant, ô Seigneur et Roi, que si cette ville est bâtie et ses murs achevés, tu n'auras plus accès à la Coélercie et à la Phénicie. Alors le roi, en réponse à Rehum le greffier, à Beteltumus et à Shimshai le scribe et à leurs associés, et résident en Samarie, en Syrie, en Phénicie, il écrivit ce qui suit. Pardon. J'ai lu la lettre que vous m'avez envoyée, j'ai encore donné des recherches, et il était constaté que cette ville a combattu dès les temps anciens contre les rois, et que les hommes qui s'y trouvaient étaient livrés à la rébellion et à la guerre, et que des rois puissants et cruels régnaient à Jérusalem et exigeaient un tribut de la Coélercie et de la Phénicie. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre d'empêcher ces hommes de construire la ville et de veiller à ce que rien d'autre ne soit fait, et que de telles méchancetés ne vont pas plus loin pour déplaire au roi. Alors, après la lecture de la lettre du roi Axerxès, et leurs compagnons se rendirent en toute hâte à Jérusalem avec des cavaliers, une multitude de batailles, en bataille, et commencèrent à gêner les constructeurs. Et la construction du temple à Jérusalem, c'est ça, jusqu'à la deuxième année du roi Darius, roi des Perses. Le roi Darius donna un grand banquet à tous ses subordonnés, donc Cyrus était mort, et c'était Darius qui était là maintenant, et à tous les nobles de Médie et de Perse, et tous les satrapes, généraux, gouverneurs qui étaient sous lui dans les 127 satrapies, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, je ne sais pas si vous voyez, c'était quand même un immense royaume. Ils mangèrent, ils burent, et lorsqu'ils furent rassasiés, ils s'en allèrent, et le roi Darius entra dans sa chambre, s'endormit, puis se réveilla. Alors les trois jeunes gens de la garde du corps qui gardaient la personne du roi se dirent entre eux « Que chacun de nous déclare ce qui est le plus fort. » Et à celui dont la déclaration semble la plus sage, le roi Darius offrira des richesses, des riches cadeaux et de grands honneurs de victoire. Il sera vêtu de pourpre, il boira dans des coupes d'or, il dormira sur un lit d'or. Il aura un char avec des brides d'or et un turban de fin lin et un collier autour du cou. Et à cause de sa sagesse, il s'assiera à côté de Darius, il sera appelé parent de Darius. Alors chacun écrivit sa propre déclaration et ils la scellèrent et la mirent sous l'oreiller du roi Darius. Et dit, quand le roi se réveillera, ils lui donneront l'écrit et à celui dont le roi et les trois nobles de Perse jugeront la déclaration la plus sage, la victoire sera donnée selon qu'il est écrit. Ah, le premier a écrit « Le vin est le plus fort ». Le second a écrit « Le roi est le plus fort ». Le troisième a écrit « Les femmes sont les plus fortes, mais la vérité l'emporte sur toute chose ». Quand le roi se réveilla, il prit l'écrit et il le remit et il le lut. Puis il envoya et convoqua tous les nobles de Perse et de Médie, ainsi que les satrapes, les généraux, les gouverneurs et les préfets. Il s'assit dans la salle du conseil et l'écrit fut lu en leur présence et dit « Appelez les jeunes gens et ils expliqueront ce qu'ils disent ». Ils furent donc convoqués et entrèrent et ils dirent. Expliquez-nous ce que vous avez écrit. Alors le premier qui avait parlé de la force du vin commença à dire « Messieurs, pourquoi le vin est-il le plus fort ? Parce qu'il égare les esprits de tous ceux qui le boivent. Il rend égal l'esprit du roi et l'esprit de l'orphelin, de l'esclave et de l'homme libre, ou du pauvre et du riche. Il transforme chaque pensée en fête et en gaieté, et oublie tout chagrin et toute dette, il enrichit tous les cœurs, oublie les rois, les satrapes, et fait parler chacun par millions. Quand les hommes boivent, ils oublient d'être amicaux avec leurs amis et leurs frères, et bientôt, ils dégainent leurs épées, et quand ils se remettent du vin, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait. Messieurs, le vin n'est-il pas le plus fort, puisqu'il force les hommes à faire ces choses ? Après avoir dit ça, il s'arrêta de parler. Alors le second, qui avait parlé de la force du roi, commença à parler. « Messieurs, les hommes les plus forts ne sont-ils pas ceux qui gouvernent la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent ? Mais le roi est plus fort. Il est leur seigneur et maître et tout ce qu'il dit, ils lui obéissent. S'il leur dit de faire la guerre, ils la font. S'il les envoie contre l'ennemi, ils vont conquérir les montagnes, les murs, les tours. Ils tuent, ils sont tués et ne désobéissent pas à l'ordre du roi. S'ils remportent la victoire, ils apportent ça au roi, quel que soit le butin qu'ils prennent et tout le reste. De même, ceux qui ne se servent pas dans l'armée et ne font pas la guerre, mais qui labourent la terre lorsqu'ils sèment, récoltent la moisson et l'apportent au roi, et ils se contraignent mutuellement à payer des impôts au roi. Et pourtant, il n'est qu'un seul homme. S'il leur dit de tuer, il tue. S'il leur dit de relâcher, il relâche. S'il leur dit d'attaquer, ils attaquent. S'il leur dit de dévaster, ils dévasteront. S'il leur dit de construire, ils construiront. S'il leur dit de couper, ils coupent. S'il leur dit de planter, ils plantent. Tout son peuple et ses armées lui obéissent. De plus, il s'allonge, il mange, il boit et il dort.
mais il veille autour de lui et personne ne peut s'éloigner pour s'occuper de ses propres affaires et ils ne lui désobéissent pas non plus. Messieurs, pourquoi le roi n'est-il pas le plus fort puisqu'il faut lui obéir de cette façon ? Et il s'arrêta de parler. Alors, le troisième, et là, son nom est cité, Zorobabel, dont la Bible parle, mais la Bible ne dit rien au sujet de Zorobabel, de ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, à part qu'il cite son nom en premier. Alors, le troisième, Zorobabel, qui avait parlé de femme et de vérité, commença à parler. Messieurs, le roi n'est-il pas grand ? Les hommes ne sont-ils pas nombreux ? Et le vin n'est-il pas fort ? Qui donc est leur maître ? Ou qui est leur seigneur ? N'est-ce pas des femmes ? Les femmes ont donné naissance au roi et à tout le peuple qui règne sur la mer et sur la terre. Ils sont issus de femmes, et les femmes élèvent ceux-là même qui plantaient les vignes d'où le vin vient. Les femmes confectionnent des vêtements pour hommes, elles apportent la gloire aux hommes, les hommes ne peuvent pas exister sans les femmes. Si les hommes rassemblent de l'or et de l'argent ou toute autre chose belle, et qu'ensuite ils voient une femme belle d'aspect et de beauté, ils laissent tomber toutes ces choses et regardent bouche bée, et la regardent bouche bée, et tous préfèrent alors à l'argent et à toute autre chose belle. Un homme quitte son propre père, qui l'a élevé, son propre pays, et s'attache à sa femme. Avec sa femme, il termine ses jours sans penser à son père, ni à sa mère, ni à son pays. C'est pourquoi tu dois comprendre que les femmes dominent sur toi. Ne travaillez-vous pas, et ne peinez-vous pas, et n'apportez-vous pas tout ce que vous... et n'apportez-vous pas tout, et ne leur donnez-vous pas tout aux femmes ? Un homme prend son épée et sort pour voyager, voler et naviguer sur les mers et les rivières, il affronte les lions, il marche dans les ténèbres et quand il vole, il pille et il le rapporte à la femme qu'il aime. Un homme aime sa femme plus que son père ou sa mère. Beaucoup d'hommes ont perdu la raison à cause des femmes et sont devenus esclaves à cause d'elles. Beaucoup ont péri ou ont trébuché ou ont péché à cause des femmes. Et maintenant, tu ne me crois pas ? Le roi n'est-il pas plus grand en son pouvoir ? Tous les pays ne craignent-ils pas de le toucher ? Pourtant, je l'ai vu avec Apam, la concubine du roi, la fille de l'illustre Bactacus. Elle s'asseyait à la droite du roi. Elle enleva la couronne de la tête du roi, elle la mit sur sa tête et frappa le roi avec la main gauche. Alors le roi la regardait. À la bouche bée. Si elle lui sourit, il rit. Si elle s'emporte contre lui, il la flatte afin qu'elle se réconcilie avec lui. Messieurs, pourquoi les femmes ne sont-elles pas fortes puisqu'elles font de telles choses ? Alors le roi et les nobles se regardèrent et il commença à parler de vérité. Messieurs, les femmes ne sont-elles pas fortes ? La terre est vaste, et le ciel est haut, et le soleil est rapide dans sa course, car il fait le tour des cieux et revient à sa place en un jour. N'est-il pas grand celui qui fait ces choses ? Mais la vérité est grande et plus forte que toute chose. La terre entière invoque la vérité, et le ciel la bénit. Toutes les œuvres de Dieu tremblent. Et chez lui, il n'y a rien d'injuste. Le vin est injuste. Le roi est injuste. Les femmes sont injustes. Tous les fils des hommes sont injustes. Toutes leurs œuvres sont injustes. Et toutes ces choses semblables. Il n'y a aucune vérité en eux. Merci, chérie. Et dans leur injustice, ils périront. Mais la vérité demeure. Est forte pour toujours, elle vit et prévaut pour donner pour toujours et à jamais. Chez elle, il n'y a ni partialité ni préférence, mais elle fait ce qui est juste aux yeux de tous, ce qui est injuste ou méchant. Tous les hommes approuvent ses actes. Il n'y a rien d'injuste dans son jugement. À elle appartient la force, la royauté, la puissance et la majesté de tous les âges. Béni soit le Dieu de vérité. Il cessa de parler. Alors tout le peuple cria et dit, « La vérité est grande et la plus forte de toutes. » Alors le roi lui dit, « Demande ce que tu veux, même au-delà de ce qui est écrit, et nous te le donnerons, car tu as trouvé le plus sage. » Et tu t'assieras à côté de moi, tu seras appelé mon parent. Alors il dit au roi, souviens-toi du vœu que tu as fait de bâtir Jérusalem le jour où tu es devenu roi et de renvoyer tous les vaisseaux qui avaient été pris de Jérusalem que Cyrus avait mis de côté lorsqu'il commença à détruire Babylone et avait juré de les y renvoyer. Il a également fait le vœu de reconstruire le temple. Et les Édomites ont incendié lorsque la Judée a été dévastée par les Chaldéens. Et maintenant, ô Seigneur roi, voici ce que je te demande. Et ce que je te demande est une chose qui convient à ta grandeur. Je prie donc que vous accomplissiez le vœu que vous avez fait de vos propres lèvres, l'accomplissement au roi des cieux. Alors le roi d'Arius se leva, l'embrassa et écrivit pour lui des lettres à tous les trésoriers, aux gouverneurs, aux généraux, aux satrapes, afin qu'ils les escortent, ainsi que tous ceux qui montraient avec lui pour bâtir Jérusalem. Quand le jeune homme sortit, il leva sa face vers le ciel, vers Jérusalem, et loua le Dieu des cieux, en disant, « De toi vient la victoire, de toi vient la sagesse, et à toi vient la gloire, je suis ton serviteur. » Béni sois-tu qui m'as donné, toi qui m'as donné la sagesse, je te rends gloire, Seigneur de nos pères. Amen. Voilà ce qui manque dans les Bibles, qui était enlevé. Parce qu'évidemment, ça dénonce tout le monde. Tout le monde est injuste, il n'y a que la vérité, il n'y a que Dieu qui est bon, qui est juste, qui est vrai. Que dire de tout cela, hein? Que Dieu peut utiliser un homme qui n'est pas vraiment un saint pour faire son œuvre, que l'opposition va se manifester et on voit d'où elle vient, que l'homme que Dieu va utiliser signera sans doute un décret de paix. Alors, les chrétiens qui connaissent la Bible, enfin j'espère, mais qui ne connaissent pas tout, ici ils disent tout de suite 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais mes frères et sœurs, c'est pas celui qui va signer un traité de paix et qui va faire la paix, qui va créer la paix, qui est l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, il consolidera le pacte de paix qui va être fait prochainement. Daniel 9, 27 dans la version Chouraki nous dit il consolidera l'Antichrist, l'Alliance, mais il la rompra au bout de 3 ans et demi. La King James dit il confirmera l'Alliance pendant une semaine et la moitié d'une semaine. La Bible Martin dit pareil, la Bible Oswald dit pareil, la Bible Darby aussi. Donc, quand vous verrez un homme signer une alliance de paix, n'allez pas dire que c'est l'Antichrist. J'ai entendu ça depuis que je suis converti, Kissinger qui essayait de créer la paix entre les Juifs et les Arabes, tous les chrétiens disaient, ah, voyez, il parle de paix, c'est l'Antichrist. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je leur disais, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Kissinger, je crois qu'il est mort. L'Antichrist viendra après pour confirmer cette alliance. Mais nous, les chrétiens nés de nouveau, nous ne verrons pas ça parce que nous aurons été enlevés entre-temps. Lisons ce qui est dit dans Ecclésiaste 1:9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, ce qui s'est passé lors de la reconstruction du temple, ça s'est fait et ça se refera. Il y aura un ordre donné, il y aura de l'opposition, et ensuite, après, il y aura de nouveau un ordre donné. Vous comprenez? Si nous lisons en Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ne voyez pas l'Antichrist partout. Il se révélera une fois que nous serons partis dans l'enlèvement. Ce qui est arrivé au temps de Cyrus arrivera de nouveau. Il y aura des oppositions. Il y aura des paroles de sagesse qui seront données à des gens comme Zorobabel pour que finalement, ce qui doit arriver, arrive. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, nous attendons le retour de Jésus qui paraîtra pour nous enlever, afin que nous ne passions pas par le règne de l'Antichrist qui va durer 7 ans. Le temple sera reconstruit, l'Antichrist s'y assiera et se proclamera Dieu. Et nous reviendrons sur les nuées du ciel et ce sera un règne de 1000 ans. Mais pas un règne avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avec Jésus qui sera un lion et qui sera terrible. Et nous serons avec lui et nous serons terribles aussi. Alors, seulement viendra la fin. Donc ce n'est pas demain. Simplement, les choses doivent suivre leur cours et ça prend du temps. Ne croyez pas que ça leur a semblé long aux Juifs quand on leur a dit « Allez, qu'on reconstruisait », ils ont commencé à reconstruire, puis après on leur a dit « Non, faut pas construire », et puis ça a traîné encore sous les rois, puis après il y a eu encore 2 ans du roi Darius, gna 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 gna. Ne croyez pas que ça leur semblait long. Nous aussi, ça nous semble long. Pourquoi Jésus ne revient pas avec toutes ces horreurs qu'on voit partout ? Mais attendez, vous êtes un peuple mis à part pour l'enlèvement, alors soyez prêts, ne soyez pas des vierges folles qui connaissent un petit peu les Écritures, mais qui tiennent pour faux ce qui était tenu caché par des théologiens, par des religieux corrompus. Que Dieu vous bénisse. Amen.